Maintenant, chapitre 28. Comment tu peux être délivré d'une malédiction à travers un prophète?
The Lord brought Israel out of Egypt.
Osée 12:13, la Bible dit, et par un prophète, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte. Le ministère d'un prophète est un agent, une agence vraiment mystérieuse. Les enfants d'Israël étaient en esclavage et la puissance de Dieu a atteint les enfants d'Israël à travers le ministère d'un prophète. À travers le ministère d'un prophète, la puissance militaire de l'Égypte était neutralisée à travers le ministère d'un prophète qui était Moïse. Amen. Israël était coincé dans la boue, coincé en Égypte. Israël n'avait pas de liberté. Exode chapitre 1, verset 11. S'il y a quelqu'un ici qui est coincé dans la boue, s'il y a quelqu'un ici qui est sous la puissance de l'Égypte, aujourd'hui, Dieu te libère par le ministère d'un prophète. Par le ministère d'un prophète. Osée 12:13, la Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël de l'Égypte et par un prophète, il fut gardé. Exode 1:11, et ils établirent sur lui des chefs de corvée pour l'opprimer. Et par leur fardeau, et il bâtit pour le pharaon des villes à Grignier, Pitom et Ramsès. Et selon qu'il est, il l'opprimait, il multipliait, il croissait, et ils eurent peur du fils d'Israël. Verset 14, et ils leur rendirent la vie amère par un dur service en argile, en briques et par toutes sortes de services au champ, tout le service dans lequel on les faisait servir était avec dureté. Donc, l'avenir de l'Égypte était amer, sombre, jusqu'à ce qu'un prophète est venu. Peut-être, c'est la même manière dont tu peux décrire ta vie. Et ça, c'est l'existence d'une malédiction. Mais Dieu veut te libérer d'une malédiction. Un prophète est un ministre majeur et il est un agent de Dieu. Et à travers le ministère d'un prophète, tu peux être d'une manière miraculeuse libéré. De la même manière dont l'Israël était d'une manière miraculeuse libéré. Par un prophète, Israël était fait monter d'Égypte et par un prophète, Israël était préservé. Alléluia. Maintenant, regardons quelques exemples de comment un prophète était un agent. Amen. 2 Rois chapitre 2. D'accord. Un prophète était envoyé comme une délivrance de la malédiction de la stérilité et aussi la pauvreté. 19. Et les hommes de la ville dirent à Élisée, tu vois que l'emplacement de la ville est bon, comme mon Seigneur le voit, mais les eaux sont mauvaises et la terre est stérile. Et il dit, apportez-moi un vase neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent et ils sortirent vers le lieu d'où sortaient les eaux. Et il jeta le sel et dit, ainsi dit l'Éternel, j'ai assaini ces eaux et il ne proviendrait plus d'ici ni mort ni stérilité. Donc, la terre était stérile, rien ne poussait. Et à travers le ministère d'un prophète, il n'y avait plus la mort et ni la stérilité. Alors que je me tiens ici aujourd'hui comme un prophète, au moins un prophète pour vous, si ce n'est pas à tout le monde, au moins pour vous, vous êtes délivré de tout ce que vous tenez, tout ce qui vous tenez stérile au nom de Jésus-Christ. Ne me méprisez pas, parce qu'en 2001, vous m'avez méprisé, pas vous, en tant que tel, mais je parle dans une manière générale. Vous m'avez méprisé en 2001, quand j'étais venu vers vous comme un prophète, j'étais venu devant vous, je pleurais comme ça. Vous vous souvenez? Si vous me regardez, est-ce que je ressemble à quelqu'un qui pleure? Moi, je suis quelqu'un qui ne pleure pas. Est-ce que vous me voyez pleurer souvent? Mais je pleurais. J'étais dans le pupitre, je pleurais. Je ne pouvais même pas voir ma Bible. Je ne pouvais même pas voir ma Bible. Parce qu'il y avait les larmes qui sortaient et je prophétisais. Je disais, mes enfants, je suis sorti d'ici, je suis allé en Malaisie. Oui, j'étais allé en Malaisie, après ici. Donc, j'étais en train de vous avertir avec les... Mais par un prophète, l'Éternel a fait monter Israël de l'Égypte. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes, vous savez, quand vous honorez vos prophètes, parce que nous n'avons pas cette culture, donc maintenant nous sommes en train d'introduire cette culture, d'honorer les prophètes, au lieu de prendre les photos, au lieu de prendre un selfie avec le prophète, vous allez donner quoi? Une offrande au prophète. Ah oui! Ah oui! Oui. C'est pourquoi le ministère du prophète ne marche pas. Parce que où le prophète n'est pas honoré, rien ne marche là-bas. Parce que Marc 6, 4 dit que Jésus était étonné. Marc 6, 4, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit. Il a dit quoi? Il a dit, un prophète n'est pas sans honneur si ce n'est pas dans son pays, parmi ses parents. Et verset 5 dit quoi? Il ne put faire là aucun miracle sinon qu'il imposa les mains à un petit nombre d'infirmes. Donc là où le prophète n'est pas honoré, les choses ne marchent pas. Donc vous devez maintenant changer votre manière de penser, renouveler vos pensées. Nous ne parlons pas de rencontrer les besoins. Écoutez. Je ne sais même pas s'il y a quelqu'un ici qui est plus prospère que moi. Je n'ai pas besoin de quelque chose de vous. Je vous enseigne que à travers un prophète, les gens sont bénis. Les gens sont réellement bénis à travers des prophètes. Quand ils honorent le prophète, les autres aussi, ils restent de côté, ils regardent. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de femmes à Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux. Ce n'est pas tout le monde qui bénéficie. Mais la Bible dit que Dieu a envoyé le prophète Élie à une seule personne. Parce que les autres ne croient pas réellement. Donc, s'il vous plaît, apprenez à honorer les prophètes. Afin que Dieu utilise le prophète pour briser la malédiction de stérilité, la malédiction de la pauvreté d'une manière miraculeuse. Il faut grandir de votre, état d'enfant. Tu peux relater avec moi comme un ami, un frère, un gagnant, un pasteur, dans plusieurs manières. Mais si tu relates avec la personne comme un prophète, tu vas recevoir la récompense du prophète. Donc, il faut apprendre cela. D'accord? C'est une bénédiction pour vous. Numéro 2. Par un prophète, vous êtes délivré. De la malédiction, des injures, des ridicules, la moquerie. Il faut toujours voir, il faut toujours chercher à regarder et voir ceux qui se moquent des serviteurs de l'Éternel. Que tous les moqueurs reçoivent les moqueries et les chocs. Que l'Éternel choque les moqueurs au nom de Jésus-Christ. 2 Rois 2:23. La Bible dit, et il monta de là à Bethel, et comme il montait par les chemins, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui, et lui dit, monte chauve. Tu te moques d'un aspect physique d'un prophète et tu te moques de lui. Ne sois pas étonné quand tu es choqué. Et la Bible dit que le prophète les a maudits. Il les maudit. Et 2 ours, c'était comme un accident de sauvage. 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent d'entre eux 42 enfants. Les moqueurs seront choqués. Oui. Numéro 3, par le ministère d'un prophète, tu seras délivré de la malédiction de la dette. Est-ce que c'est OK? C'est 2 Rois 4, verset 1. Et une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort et... » Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel et le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants afin qu'ils soient ses serviteurs. Le créancier est venu pour prendre. Les dettes ne montrent pas leur vraie méchanceté. Jusqu'à ce que, écoutez, surtout lors de la mort, la plupart d'entre nous qui sont endettés, nous n'allons pas voir la méchanceté de la dette jusqu'à ce que nous mourions. Il dit, tu sais que ton serviteur, mon mari, est mort. Il dit, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants. Est-ce que je peux avoir une chaise sur l'estrade? C'est pas possible. Ils les ont mis ensemble, les chaises. OK, pas de problème. Ça va, il y a quelqu'un qui va chercher une chaise pour moi. Assieds-toi. D'accord. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, jeune homme. Oh, gloire à Dieu. OK, d'accord. Maintenant, ouais, la dette est une méchanceté. Le créancier est venu prendre mes 2 enfants. Les choses ne marchent pas bien. La dette est sans compassion, sans pitié. Amène ta maison. Amène-nous ta voiture, tout ce que tu as. Amène tous. Nous avons besoin de tous maintenant. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais maintenant, le prophète vient, le prophète de l'Éternel vient. Et est-ce que ce n'est pas une belle chose? Et l'Éternel est sur le point de briser cette chose. Et Élisée lui dit, que ferai-je pour toi? dis-moi ce que tu as à la maison. Et elle dit, ta servante n'a rien du tout dans la maison qu'un pot d'huile. Et il dit, va demande pour toi du dehors des vases à tous les voisins, des vases vides. N'en demande pas peu. Et rentre et ferme la porte sur toi et sur tes fils et verse dans tous ces vases et ôte ceux qui seront remplis. Et elle s'en alla d'auprès de lui et elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui apportaient des vases, les vases et elle versait. Et il arriva que quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, apporte-moi encore un vase. Et il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et s'en vint. Et raconta à l'homme de Dieu, et il dit, va, vends l'huile et paye ta dette et vous vivrez, toi et tes fils, de ce qui restera. Dans cette réunion, l'onction est présente pour vous faire sortir de la dette. Maintenant, il ne faut pas mépriser les prophéties. J'ai parlé à quelqu'un qui était ici en 2001. Et il dit, dès que j'ai quitté le pays, certaines personnes immédiatement sont rentrées dans les hypothèques, hypothèque après hypothèque. Je connais quelqu'un qui avait économiser un grand nombre, une grande somme d'argent. Oui. Et ils ont tout pris de lui. À la fin, même c'est moi qui avais donné la personne de l'argent. Juste après que j'ai quitté le camp, ils ont dit, oh, ne l'écoute pas, ils ne connaissent même pas, ils ne connaissent même pas ce qu'il dit. Vous me méprisez. Et je dis seulement que ne méprise pas le prophète. Sinon, vous allez vous blessé. Donc plutôt, il faut regarder et n'espère pas de la magie, mais il faut avoir la foi et soyez humble. Amen. Il faut avoir la foi et soyez humble. Ça dépend de comment vous voyez la personne, ça va marcher pour vous. Oui. Mais une fois que tu crois, ouais. Une des raisons pour laquelle les gens n'obéissent pas, c'est parce qu'ils ont une raison qui est plus forte que ce qu'on dit dans leur pensée. J'aimerais environner par les gens prospères. Je ne veux pas être environné par les gens comme cette fille, cette femme qui avait deux enfants et les créanciers étaient venus prendre ses enfants. Tu vois? Est-ce que vous êtes là ou bien vous êtes déjà parti? Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes toujours ici? Oui. Donc, il faut écouter très bien. Peut-être il y a quelque chose qui sera dit à cette réunion, quelque chose qui sera fait à cette réunion, qui sera une porte ouverte, une grande clé de sagesse pour vous humilier, ok? Et tu seras libre. Tu vas commencer à monter au lieu de descendre, aller combattre les choses qui ne sont pas possibles. Est-ce que vous savez pourquoi les Juifs, dans mon livre, Comment neutraliser les malédictions, vous pouvez lire l'histoire des Juifs. Vous ne pouvez même pas croire. Si vous pensez que Hitler était la première personne à faire ce qu'il a fait aux Juifs, ça veut dire que vous ne connaissez pas les histoires des Juifs. Ils ont été chassés des pays après pays à plusieurs reprises. Comme ce qui s'est passé à la Deuxième Guerre mondiale. Ils les ont volés, ils les ont tout pris, ils ont pris tout ce qu'ils avaient en Espagne, en France, partout. Mais une des raisons, c'est pourquoi? C'est parce que ce que les Juifs faisaient comme leurs travaux principaux, c'était quoi? C'était qu'ils prêtaient de l'argent aux gens. Et si tu prêtes l'argent à quelqu'un, encore et encore, un moment vient, la personne qui est venue emprunter l'argent devient même ta possession. Vous voyez, il y a une histoire de Shakespeare, The Merchant of Venice, le marchand de Venise. Et il y avait un homme dans cette histoire appelé Shylock qui était juif. Et tout le monde dans la ville avait emprunté l'argent de lui. Vous voyez? Et maintenant, donc dans l'Antiquité, c'était le travail qu'il faisait. Maintenant, ce travail des Juifs maintenant a été converti et c'est ça maintenant que les banques font. Et ce sont les mêmes Juifs qui sont des propriétés des banques. Vous voyez? Et ils sont en train de prêter de l'argent aux gens. Mais écoutez, il y a deux parties. Soit tu prêtes ou bien tu empruntes. Mais vous voulez être à quel côté, sur quel côté, emprunter ou prêter? Donc, maintenant, cette affaire de prêter de l'argent aux gens a été transférée aux banques. Donc, en faisant cela, maintenant, tu ne veux pas maintenant accuser une certaine tribu d'avoir été méchant. Tu vas penser maintenant que c'est une banque, la Banque d'Amérique, qui veut prendre ma maison parce que je n'ai pas pu payer tout ce que je devrais payer comme hypothèque. Oui, mais vous ne savez pas, mais c'est ça ce qui se passe. Si tu es une nouvelle personne ici aux États-Unis, on va te dire, mais pourquoi payer un loyer quand tu peux acheter la maison? Ils vont te dire qu'il ne faut pas gaspiller ton argent. Mais ce n'est pas, je ne suis pas venu parler de ça. Je suis en train de dire que ce marqué. Il faut croire. Vous devez croître en croyant la parole de Dieu. Je ne dois pas vous dire que 70 à 80% des gens qui prennent les hypothèques n'arrivent pas à payer. Moi, je ne suis pas un banquier. Mon fils a travaillé à la banque. Il m'a donné le pourcentage des gens qui prend les hypothèques, qui n'arrive pas à payer. Je suis venu vous dire qu'il faut honorer votre prophète. Ne méprisez pas les paroles. Ne te moque pas. Ne plaisante pas. Il ne faut pas ridiculiser. Mais il faut apprendre à honorer. Honorer. C'est pourquoi je dis, au lieu de mépriser, il faut honorer. Et l'une de ces manières, c'est honorer. Dans le passé, tu ne pouvais pas aller voir un prophète sans honorer le prophète. Et vous voyez, quand quelqu'un devient grand à tes yeux, les paroles et le ministère de la personne devient puissant. Dieu n'envoie pas des prophètes partout. Dieu n'envoie pas des prophètes à tout le monde. Il y avait beaucoup des hommes, des lépreux dans les jours de Naaman. Et c'est à Naaman que Dieu a envoyé le prophète et c'est lui qui a bénéficié du ministère du prophète. Donc, j'aimerais que vous vous ouvrez au ministère du prophète parce qu'à travers un prophète, l'Éternel a fait sortir Israël de l'Égypte. Et cette réunion de camp est une réunion prophétique. Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? La stérilité par le ministère d'un prophète. 2 Rois 4. Par le ministère des prophètes, vous serez délivré. 2 Rois 4, verset 14. Et il dit, qu'y a-t-il donc à faire pour elle? Et Géasi dit, eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Et il l'appela, elle se tint dans la porte et il lui dit, à cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Faut pas me mentir. Et la femme conçut et enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Pendant notre culte de vendredi saint, comme d'habitude, je bénis les enfants. Il y avait un couple qui n'avait pas eu un enfant pour 10 ans. Donc, ils ont fait quoi? Ils ont coupé la partie du message où j'ai prié. Et chaque fois qu'ils font le rapport sexuel, ils jouent la prière que j'avais faite pendant le vendredi saint, 10 ans après le mariage. Les médecins, les docteurs, ils ont tout fait, ça ne marche pas. 10 ans. La raison pour laquelle j'ai entendu ça, parce que je faisais une réunion avec la personne. Je suis sûr que la personne va témoigner. Et puis, la personne avait dit qu'il devrait être à... Oui. Il avait dit que c'était une grande chose, donc il devrait être là. Ils ont joué, quand ils vont faire le rapport sexuel, ils jouent le message, la prière. Donc, ils font le rapport sexuel avec les bénédictions de la prière que je faisais. C'est ça tout ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait dédicace de leur enfant il y a quelques semaines. Mais pourquoi pas crier un grand Alléluia à l'Éternel? Ah oui? 10 ans. Oui. Ils ont jouer la prière. Ils ont fait jouer la prière sur leur appareil à chaque fois qu'ils faisaient le rapport sexuel en tant que couple. À chaque session, le message, la prière était en train de jouer. Ce que les médecins ne pouvaient pas faire, ce que les analyses ne pouvaient pas faire, ce que les traitements ne pouvaient pas faire, Dieu a fait pour eux à travers le ministère d'un prophète. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Dieu va faire la même chose, tel miracle étonnant dans votre vie. Ah oui, ah oui. Et je crois que dans la même manière, Dieu va vous donner la faveur, les opportunités, les portes ouvertes pour sortir de la dette, de la pauvreté, du ténèbre, des difficultés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. D'accord. Asseyez-vous pour un moment. Y a-t-il quelque chose qui se passe dehors? Je vois les gens sortir. Donc, nous allons faire une pause pour 5 minutes. Et puis, parce que je ne comprends pas pourquoi, il y a 50 personnes qui viennent de sortir dans des minutes. Et donc, on va prendre une pause et vous allez ranger tout ce qu'il y a parce que ça m'affecte beaucoup. Gloire à Dieu. Vous faites du bon travail. Maintenant, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous amener des bénédictions. Et une de ces choses, allô, donne-moi du volume ici, ok? On ne doit pas supplier pour le volume. Merci beaucoup. Monte. Fais monter le volume. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire à travers un prophète. Nous pouvons être délivrés. Mais j'aimerais vous donner une liste des choses que vous pouvez faire pour induire des bénédictions dans votre vie. Numéro 1, vous pouvez produire des bénédictions en servant l'Éternel. Exode 23, 25, la Bible dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira. Numéro 2, vous pouvez aussi produire une bénédiction. S'il y a une malédiction qui est à l'œuvre dans votre vie, à travers une bénédiction, la malédiction sera neutralisée. Peut-être il y a une malédiction en œuvre dans votre vie que tu dois mourir à un certain âge. Mais Dieu te choisit pour le servir. Et dès que tu commences à le servir, la bénédiction de la longue vie commence à venir sur ta vie. Et soudainement, tu as neutralisé et tu as brisé la malédiction d'une vie courte. Donc maintenant, tu as la longue vie contre une vie courte. C'est neutralisé maintenant et tu es maintenant dans... Et maintenant, ça sera combien? Tu auras combien d'âge? Tu auras 60 ou 70 ans. Oh, c'est bien. Numéro 2, tu peux aussi introduire une bénédiction dans ta vie en acceptant l'appel de Dieu. Psaume 65, verset 4. Donc, si Dieu te choisit, tu es béni. Ne rejette jamais une opportunité de commencer une église. Ou bien construire une église, ou bien faire l'œuvre de Dieu. La Bible dit, bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habitera tes parvis. Nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple. Quand j'ai accepté de commencer une église, j'étais étudiant à l'école de médecine. Je n'avais pas fini les études. Le docteur Noche, il est mon camarade de classe. À un moment donné, on était dans la même chambre parce qu'il n'avait pas de chambre. Il a resté dans ma chambre sans payer le loyer. Alors, mais ne vous inquiétez pas. Ça fait des années, il paye maintenant, il paye son loyer. Il avait aussi mangé ma nourriture, la nourriture de mon bien-aimé. Oui. Maintenant, la bénédiction de l'Éternel était sur ma vie parce que j'avais accepté. Et je crois que les résultats que j'avais à l'école et la manière dont j'ai pu même réussir à mes examens, j'ai eu des bonnes notes. On ne m'a jamais fait répéter ou bien échouer un examen à l'université. Je ne me souviens pas. Jamais. C'est une bénédiction. Je crois que j'allais échouer. Parce qu'à l'école de médecine, on peut t'avoir quelque part. L'école de médecine n'est pas une école normale. Parce qu'il y a des examens oraux, des examens cliniques, beaucoup de choses. Et tu peux avoir un problème quelque part, tu peux faire une erreur et puis on va te répéter. Donc peut-être tu vas venir, tu vas dire que tu es le meilleur dans la région de l'Est du pays. Mais quand tu seras à l'école de médecine, tu vas voir que toutes ces choses n'appliquent pas, ne s'appliquent pas là-bas. D'accord? Donc, la bénédiction d'être appelé ne réduit pas quiconque ou bien tout ce que, ou bien le travail que tu fais dans le monde. Ça te rend plus intelligent. La Bible, que tu es béni quand tu es choisi. Chaque fois, nous pensons que quelqu'un veut ôter quelque chose de nous. Quelqu'un veut prendre notre argent. Quelqu'un veut prendre quelque chose. Il faut arrêter d'avoir cette mentalité que quelqu'un veut prendre quelque chose de vous. Je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui pense comme cela, que oh, quelqu'un veut prendre quelque chose de moi, quelqu'un veut. Si j'ai cette pensée, je ne serais même pas ici. Si je pensais que c'était la pensée que vous avez, je ne vais pas venir ici. Dans une seconde, ça ne veut même pas prendre plus d'une seconde. Je vais prendre ma décision, je ne vais pas venir. Il y a certains endroits où je ne parle plus. Ce n'est pas une bonne pensée à avoir. Dieu ne veut pas que vous ayez cette pensée. C'est une bénédiction. Si Dieu dit, viens, travailles pour moi, si Dieu te choisit, quel honneur. Mais ça, c'est quoi? Donner ton temps, ton amour, ton cœur à Dieu. Oui. Alors, si une fois vous aurez cette opportunité, vous pensez que Dieu vous appelle, ne rejette pas l'appel. Un appel pour travailler pour lui ici aux États-Unis ou bien au champ de mission, c'est une honneur, c'est un honneur, c'est une bénédiction. N'importe où. Kwabena ici, il était aux États-Unis, il est parti à Barbados. Vous avez une église là-bas? Ça marche? Il est content. Hier, il était dans le couloir, il a dit, évêque, je t'aime. Il dit, je t'aime. Et je l'ai vu et j'ai dit, je t'aime aussi. Et j'ai dit, bonne nuit. Oui. Je ne pense pas qu'il a été détruit. Est-ce que tu as été détruit en allant à Barbados? Tu as eu la promotion. Il a eu la promotion. Donc, il ne faut pas résister Dieu quand il te choisit. Sois content. Dieu, tu me choisis? Moi, quelqu'un comme moi? Hey, Dieu, tu as fait une erreur. Hein? Dieu dit, non, je n'ai pas fait d'erreur. Je te choisis. Il ne faut pas lutter contre Dieu. Il faut suivre le flot. C'est une bénédiction. Ça ne va pas te réduire. Écoutez, ça va te rendre plus intelligent. Tu peux demander à tous les pasteurs qui ont 40 ans et au-delà, ils vont te dire que servir l'Éternel est une bonne chose. La plupart des pasteurs sont des laïcs. Ils vont te dire la vérité. S'ils travaillent pour Dieu, détruit ou bien ça te construit. Donc, la Bible dit « Heureux, heureux l'homme que tu choisis ». Ça veut dire que c'est une bénédiction. Bienheureux, bienheureux. C'est une bénédiction. Si Dieu dit, approche-toi de moi, viens, tu es béni, tu es béni. Je suis béni pour que Dieu me choisisse. Vous voyez? Il habitera tes parvis. Ça veut dire que tu vas rester dans la maison de l'Éternel. Quelle bénédiction. Nous sommes ici au milieu de la semaine. Vous serez en train de faire beaucoup de choses. Mais Dieu dit, viens à moi pour quelques heures. C'est une bénédiction. Et il dit, nous serons rassasiés du bien de ta maison. Ça veut dire qu'il y a du bien dans la maison de l'Éternel. Pas des mauvaises choses, mais du bien dans la maison de l'Éternel. Nous serons rassasiés. Il faut regarder voir. Si une voiture va te satisfaire, l'argent va te satisfaire, un travail va te satisfaire, Amérique va te satisfaire, une épouse va te satisfaire, un enfant. Attendons tous, voyons. Amène tes notes, je vais amener mes notes. Je vous dis souvent d'amener vos notes avec vos photos. Il ne faut pas oublier de prendre des photos parce que vous serez besoin d'avoir des évidences. Amenez vos notes, on va voir. Les bontés. Je prophétise les bontés de la maison de l'Éternel, les bontés, les bontés, les bontés, les bontés, les bontés, les biens, du bien. Vous serez rassasiés du bien. Donc c'est très merveilleux. Si Dieu t'appelle, il faut choisir. C'est une bénédiction. Numéro 3, tu peux aussi induire une bénédiction. Je peux vous dire la vérité, qu'il n'y a pas de personne qui sera honnête, qui ne va pas dire qu'il ressent de la frustration dans sa vie. Même dans le ministère, je peux ressentir la frustration, les luttes. À plus forte raison dans le monde séculier. Hey! Tout ce que vous pouvez faire pour amener encore des bénédictions dans votre vie, souvenez-vous, j'aimerais que vous ouvrez un supermarché avec le nom, il n'y a rien comme assez de bénédictions, société anonyme. Je vous ai déjà donné trois choses qui peuvent vous amener des bénédictions. Pourquoi pas trois? Je vais vous donner encore plus. Soyez comme Abraham. Abraham, lui, il a reçu les bénédictions. Maintenant, Deutéronome, numéro 3, vous pouvez induire la bénédiction sur votre vie en suivant la voix de Dieu. La voix douce, aimable de Dieu. Deutéronome, ou bien Proverbe, Proverbe 8, 34. La Bible dit, « Bienheureux l'homme qui m'écoute, veillant à mes portes tous les jours, gardant les poteaux de mes entrées. Bienheureux l'homme qui m'écoute. » Quiconque écoute la parole de Dieu, qui peut dire que j'ai entendu la parole de Dieu, est béni. Vous savez, la bénédiction que j'ai dans ma vie, c'est que j'ai entendu ces paroles renommées, cinq paroles. À partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner cette voix-là, la voix de Dieu. Dieu, quand Dieu te parle, je suis ici parce que Dieu m'a dit clairement, donne-toi entièrement à ces choses. Un matin, quand je lisais ma Bible, dans l'hôtel de mon père, mon épouse était allée au travail chez la comité des biens confisqués. Il y avait une comité. Et moi, j'étais à la maison. Je priais le matin. Et quand j'ai lu ma Bible et j'étais sur le tapis en train de prier, un tapis bleu. Est-ce que vous pouvez imaginer le tapis bleu? J'étais sur le tapis en train de prier. Je l'ai entendu, je l'ai entendu dans mon cœur. Donne-toi tout entier. Je me suis levé. J'avais une entreprise, j'avais une remorque, un camion remorque. J'ai dit, il faut garer, c'est fini. Plus de business, plus des affaires. C'était la fin. Parce que depuis que j'avais fini l'école de médecine, je faisais aussi ces affaires pour pouvoir survivre. Il m'a dit de me donner totalement à mon travail. Depuis lors, là, je n'ai fait aucun affaire. Je n'ai fait rien pour gagner de l'argent à part ce que j'ai fait au ministère. Je n'ai pas de pirogue, je n'ai pas de navire, je n'ai pas de plantation. Même, je ne prends pas de loyer. Je travaille pour l'Éternel. Je me suis donné totalement à Dieu. Ce que je veux, c'est que l'Église prospère et que l'Église aille loin, loin. Donc, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait pour que l'Église subsiste des années quand je ne serai pas là. Qu'est-ce que vous pensez? Hein? Donne-toi tout entier. Si tu es un jeune ici et Dieu t'appelle et te dit de te donner entièrement à lui, il faut te donner. Ne regarde pas les autres. Tu parles à quelqu'un, tu dis, ok, moi je ne pars pas, est-ce que tu vas aller? Il y a des gens qui font ça. Moi je ne pars pas à la veillée, est-ce que tu vas aller? Si tu regardes les gens, tu ne peux pas faire le travail de Dieu. Quand tu entends « Heureux l'homme qui m'écoute », c'est une bénédiction de l'écouter. Donc si tu dis que Dieu m'a parlé dans la prédication, Dieu t'a parlé, alors il faut écouter ce qu'il dit. En Deutéronome 28, il dit, il arrivera que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre garde à pratiquer tous ses commandements que je te commande aujourd'hui,
listen diligently to the voice of the Lord thy God. Now, why do you listen? To observe or to think?
Maintenant, ça, il dit que pourquoi écouter attentivement? Pour prendre garde à pratiquer tous ces commandements que je te commande aujourd'hui. Hein? Hein? L'Éternel, ton Dieu, te mettra très haut au-dessus. On n'a pas encore vu la bénédiction. Mais il dit que Dieu te mettra très haut. Regardons verset 2. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si encore il explique, si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. Non, maintenant, vous voyez, moi, j'étais venu dans ce monde, j'étais condamné à la frustration. Donc, je marchais, j'étais condamné à la frustration. J'étais condamné à être frustré, souffrir, travailler dur, juste pour manger. Peut-être même si on allait lutter même pour quelque chose de plus important que ça, c'était juste pour manger du pain. Donc, maintenant, j'étais arrivé à un carrefour, vous me voyez? Je marchais. Et quand j'étais arrivé ici, tout le monde partait tout droit. Et l'Esprit a dit, tourne-toi à gauche, donne-toi tout entière vers cette direction. Et j'ai dit, Seigneur, mais toutes ces personnes sont pauvres là-bas. Tout le monde part dans cette direction. Et l'Éternel dit, donne-toi tout entier. Voici, transpirer pour manger. Mais il voulait me mettre sur une nouvelle vie. Est-ce que je vais aller ou bien je vais rester? Et j'ai pris une décision d'aller dans cette nouvelle vie, pas à pas. Et j'ai pris le pas un peu. Aujourd'hui, je ne sais même pas le prix d'un pain. Est-ce que vous pouvez croire? Je ne connais pas le prix du pain. Je ne peux pas croire. Est-ce que vous croyez? Je ne connais même pas combien du pain. Ça coûte combien? Je ne connais pas. Je ne sais même pas. Chaque fois que je vois McDonald's, je me souviens des jours quand je regardais McDonald's et je me demandais. Je pouvais regarder McDonald's, regarder les prix, le grand Mac, je regarde. Il y a quoi? Double Whopper, cheeseburger, c'est combien les frites? Et puis je me demande, si je vais économiser, qu'est-ce que je dois acheter? Est-ce que je dois acheter tout le repas ou bien? Écoutez, j'ai été à McDonald's en train de calculer combien de personnes ont expérimenté la même chose. Donc, ce que j'ai dit, tu seras en train d'étudier le menu, analyser, calculer. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je peux avoir 200 personnes maintenant qui vont aller me chercher deux grandes McDonald's super taille. Je ne dois même pas comprendre ou bien savoir le prix. C'est vrai, littéralement. J'ai dit seulement, il faut acheter. Je vais seulement goûter et puis je vais dire non, c'est pas bon, je n'aime pas le... Votre témoignage sera plus que ça. Votre témoignage sera plus que ça. N'oubliez pas de témoigner quand le jour vient et vous ne calculez plus à McDonald's. Il ne faut pas oublier de dire qu'il y avait un temps. Je lui avais entendu que je calculais aussi et je me voyais là. Mais aujourd'hui, Dieu m'a élevé. Quand je vois McDonald's, je ris et je sais que tout ce qui est là, je peux acheter. Je peux acheter toute la boutique. Oui, c'est vous. Un jour, vous savez, moi j'aime manger les brochettes. Vous l'appelez quoi? Shish kebab. Ok, les brochettes. J'étais avec mon père et puis chaque fois que je vais acheter des brochettes, j'achète une brochette. Mais je ne savais pas qu'il y avait des grands niveaux. Jusqu'au jour où j'étais allé quelque part avec mon père, j'étais assis dans la voiture, et il a dit qu'il fallait acheter. Je ne savais même pas ce que ça veut dire. Donc il a acheté quelqu'un pour acheter. Et ils ont tout acheté. Tout ce que l'homme vendait, ils ont tout acheté. Ils ont amené ça dans la voiture. C'est là que j'ai constaté qu'il y a des niveaux. Écoutez, tu seras au niveau top, le plus grand niveau, le haut niveau. Oui, il y a des hauts niveaux, haut niveau des ventes. Tu seras dans le supermarché, en train de calculer et tu dis qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, des prix aux enchères ou bien des soldes, mais vous êtes libérés de toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Quand vous entendez que les supermarchés sont en train de faire sortir certaines choses qui sont sur le point de périmer, c'est là que vous courez pour aller. Et vous l'appelez comment? Vendredi noir. Je n'ai jamais entendu parler de vendredi noir, un vendredi appelé noir. Vous n'aurez plus besoin de vendredi noir dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Tu vas prendre ton épouse et tu vas dire, je t'amène à Singapour pour faire tu vas acheter des choses. Vous allez voyager au centre international, aux centres internationaux pour aller acheter des choses. Alors, suivre Dieu, suivre la voix de Dieu, c'est d'écouter attentivement à sa voix. Et puis, toutes ces bénédictions viendront sur vous. Toutes ces bénédictions. Moi, je veux beaucoup de bénédictions. Ne soyez jamais satisfait des bénédictions. Il n'y a rien comme assez de ou bien trop de bénédictions. Parce que tu ne sais pas quelle bénédiction qui est à l'œuvre dans ta vie. Peut-être ta maman avait volé ton père de son bien-aimé, du bien-aimé original de ton père. Donc, peut-être ta maman avait volé ton père d'une autre fille, une autre femme. Et puis, l'autre femme avait maudit les enfants de ta maman. Oui, c'est possible. Vous voyez, Ivan, en Russie, l'un de leurs tsars, ils étaient mariés à son épouse, il a accouché un enfant. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient mariés à cette femme et puis des années, ils n'avaient pas d'enfant. Donc, ils s'est mariés à une autre femme et puis ils ont eu un enfant appelé Ivan le 3. Et il y avait un prêtre qui avait prophétisé. Il lui dit que tu vas enfanter un enfant mauvais, un enfant méchant. Et Ivan était vraiment méchant. Donc, tu seras là. Tu ne sais pas quelle malédiction est à l'œuvre dans ta vie. Peut-être tu es ici aujourd'hui en train de crier, alléluia, mais on ne sait même pas combien de cœurs tu as brisé dans ta vie. Hein? Peut-être tu as utilisé le passeport de quelqu'un pour venir ici. Ça te fait un trompeur et puis un menteur. Peut-être tu avais triché à l'examen. Peut-être tu es un adultère, un fornicateur. Et il y a beaucoup de malédictions qui viennent. Peut-être tu as fait 17 avortements. Ça veut dire que tu es meurtrière, tu tues. Peut-être tu as couché, tu as fait le rapport social avec un chien ou bien un chat ou bien un enfant. Peut-être tu as molesté les enfants. Beaucoup de choses sont possibles. Tu es ici, tu as élevé les mains. Seigneur, oh Seigneur. Et maintenant Dieu t'appelle, il dit, viens mon fils. Et tu dis, non, 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 Dieu, attends. Attends. Si tu es de Ghana, la plupart des gens qui vivent aux plages sont les enfants des maîtres des esclaves, les gens qui ont vendu les autres. Donc tu es un enfant de quelqu'un qui avait son arrière grand-père qui avait vendu ses amis, ceux qui ont les noms comme Vandapoy, Orleans, Lince. Il y a un ici, Orleans, Lince, Fletcher. Ces noms ne sont pas des noms gagnés. Il y a beaucoup qui s'appellent Fletcher, Vandapoy, Van Dyke. Hein? Nylander, Lutrotte, Mills. Hein? Paintsel, Lawson,
Hutchison.
So, alors, il n'y a rien comme trop de bénédictions. Non. Quand les bénédictions sont beaucoup, ça vaut mieux. Il n'y a rien comme trop de mains imposées sur ta tête. Je planifie d'imposer mes mains sur tout le monde ici. Et je vois qu'il n'y a pas de tapis ici. Pas de problème. Il n'y a rien comme trop de bénédictions, trop d'imposition de mains. Nous avons besoin de toutes ces choses parce qu'on ne peut pas dire qu'est-ce qui marche contre notre vie, qu'est-ce qui œuvre contre notre vie. Donc, quand tu ressens Dieu te dit quelque chose dans ton cœur que ceci, dès que tu entends sa voix, c'est déjà une bénédiction.
Me, I go, I go, I go, I go.
Moi, je n'aime pas du tout quand je marche, quand je passe des jours après jours, des semaines, et je ne l'entends pas. Je peux prier pour 6 jours. Je serai avec l'Éternel, je lis la Bible, mais à un moment donné, je ne comprends même pas ce que je lis. Et puis, je dors. Et puis, quand je me lève, je sens une pleurer. J'ai vu ces personnes avec les mains coupées, les handicapés. C'est assez. Il me montre les douleurs, les tristesses, aide ces personnes, oui. On venait de commencer un grand projet. Je n'ai jamais pensé à cela. Oui. Et je suis honoré. Vous êtes béni quand vous êtes honoré. Si Dieu vous parle, c'est une bénédiction. Heureux, bienheureux l'homme qui m'écoute. C'est ça ce que la Bible dit. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui vient à toi. Donc, il ne faut pas arrêter. Il n'y a rien comme trop de bénédictions dans votre vie. Il faut prendre ça de moi. Des fois, même tu peux regarder, mais tu ne veux pas même expliquer ce qui se passe dans ta vie. Des fois, il y a certaines choses qui se passent aux bonnes personnes, et puis nous, tout le monde est là, nous regardons et nous nous demandons, mais qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi même? Ça c'est quoi? Et c'est, des fois, ce n'est pas parce que la personne avait fait quelque chose de mauvais, mais peut-être la personne était présente lors du malheur, et puis la bonne personne est tombée dedans. Si tu regardes à ta mère ou ton père, aujourd'hui ils sont vieux comme ça, tu ne peux pas imaginer les jours quand ils étaient, et bien elles étaient des petites filles, les ados, et elles menaient la vie. Oui, vos mamans, aujourd'hui, elles sont vieilles, mais vous ne savez pas, quand elles étaient jeunes, elles menaient une vie. Aujourd'hui, vous les voir à l'église, chaque jour, elles tenaient les Bibles, elles citent les versets bibliques. Ce n'était pas comme ça, hein? Sont allés en retraite. C'est pourquoi. Et peut-être, vous êtes même les produits de la vie que ta maman menait. Peut-être même ton papa n'est pas ton vrai papa. Hey! Un jour, une sœur est allée faire analyse du sang. Quand elle a fait l'analyse du sang, son groupe sanguin était AB, mais sa maman était AA et son papa était O, plus O. Donc la question était, d'où venait le B là? Hey! Quelle que soit la malédiction qui te suit, à ce camp, je déclare que cette malédiction est coupée au nom de Jésus-Christ. Continuons, s'il vous plaît. Numéro 4. Tu peux induire des grandes bénédictions dans ta vie en faisant des grands sacrifices. Des grands sacrifices. Genèse 22, 16. Genèse 22, 16. J'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, parce que tu as fait cette chose-là. Ça, c'était Isaac sur l'autel. Dieu explique pourquoi. Dieu explique la raison pour la bénédiction. Donc, il faut noter. Il dit, parce que tu as fait cette chose-là et que tu n'as pas refusé ton fils ou bien ton épouse ou bien ton mari. Tu lui as donné, hein? le verset suivant. Certainement, je te bénirai. Oui. Et je multiplierai abondamment ta semence. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Maintenant, quand il y a la clarité de la raison pour laquelle une bénédiction vient, parce que tu n'as pas retenu ton fils de moi, c'est parce que, c'est le mot que nous cherchons, parce que, vous comprenez? Parce que tu n'as pas retenu, tu n'as pas refusé ton fils, certainement je te bénirai. Je te bénirai. Dieu te parle aujourd'hui. Il dit, je te bénirai. Je te bénirai parce que tu n'as pas refusé. Et nous avons le pouvoir de refuser nos vies, refuser nos épouses, refuser. C'est pourquoi je dis, ton père peut dire, ne fais pas ça. Et tu peux faire. Ton père aussi peut dire, fais attention de ça. Moi aussi, je comprends. Moi aussi, j'avais écouté les mêmes messages, mais fais attention. Ce n'est pas comme vous pensez, vous les enfants, là. Hey! Il faut prier d'abord, il faut prier. Mais tu as déjà prié. Ces commentaires, les gens qui travaillent avec moi, quand ils venaient, travaillent avec moi, il y a des pasteurs qui les ont avertis de faire attention, de ne pas venir travailler avec moi et de faire quelque chose mieux avec leur vie parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, certainement, certainement, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Hein? Est-ce que vous voulez, vous cherchez ça dans votre vie? Vous cherchez les bénédictions dans votre vie? Ah oui, nous avons besoin de ces bénédictions-là. À part les malédictions globales, les malédictions sur mesure, les malédictions de désobéissance. Ouais. Je ne serais pas étonné si mes arrière-grands-pères, ils étaient des maîtres des esclaves. Parce que nous, on habitait juste à la côte. On habite juste près du château où on amenait des esclaves. C'est possible. Peut-être mes ailleurs grands-parents, les arrières-grands. C'est pourquoi il y a certaines maladies, tu ne peux même pas expliquer. On te demande, est-ce que ta maman a cette maladie? On ne fait même pas de test d'analyse. On dit, ton papa, est-ce que ton papa a cette maladie? Est-ce que... Et puis on dit, ok, c'est comme si ta famille mérite cette maladie. Aïe! Et aujourd'hui même, il y a des gens qui héritent des cancers. Il y a des maladies héritées. Ça se trouve dans les gènes. C'est quelque chose qui vient de... Ce n'est pas même ta vie. Ce n'est même pas ta propre vie. Toi, tu n'as rien fait. Il n'y a rien comme trop de bénédictions. Alors, vous devez être les gens qui sont égoïstes pour des bénédictions. Il faut arracher aussi beaucoup que vous pouvez. Dans votre vie, il faut prendre beaucoup que vous... Il faut faire tout ce que vous pouvez faire pour avoir des bénédictions dans votre vie. Oui, c'est ça. C'est que je veux que vous... Il n'y a rien parce que tu n'as pas refusé ton fils, ton seul fils, ton unique. Certainement, je te bénirai. Certainement, je te bénirai. Hein? C'est pourquoi j'ai dit, il faut être un enfant chéri de ton papa, ou un enfant chéri de ton papa. Il faut être un membre chéri de ton pasteur pour recevoir tes bénédictions. Il y a une femme qui a dit que son époux, son mari, elle m'avait dit que son mari était mort et elle expliquait, et elle a dit, avant que mon mari ne meure, il m'a béni. Son mari a dit que Dieu te bénisse d'avoir pris soin de moi. Tu as pris soin de moi vraiment. Tu m'as lavé, tu m'as aidé à ce temps, et puis il est décédé. Je l'écoutais et puis j'ai dit, waouh. Parce que l'homme maintenant laissait la femme ici sur la terre, dans ce système maudit. Ce système maudit. Il est mort mystérieusement. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut expliquer sa mort. Ils ont fait toutes les analyses, on n'a pas vu la cause de sa mort. Et je vous dis aussi, médicalement, en tant que médecin, donc des grands sacrifices. Je crois que les sacrifices que j'ai faits, qu'aujourd'hui ne sont pas des sacrifices, mais parler d'une manière technique, je n'avais rien, mais j'avais le potentiel, mais je n'avais rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, disons que je n'avais rien donné, mais disons que tout ce que j'avais donné potentiellement a été une bénédiction pour moi aujourd'hui. Tout ce qui semble un sacrifice que j'avais fait. Donc, ne le retire pas. Ou bien ne refuse pas quand il est temps de sacrifier quelque chose. Tu dis, Seigneur, tu veux que je pars? Tu veux que je voyage pour toi? Je vais aller jusqu'au bout du monde. Oui. Aller jusqu'au bout du monde. L'Amérique nous attend. Il y a l'Amérique du Nord, Sud-Amérique, Amérique centrale. Amérique, c'est l'Amérique. Et c'est une église. L'église américaine, c'est une église. Londres, Sud, le Sud, c'est tout Amérique. Et ils vous attendent. Les gens, ils attendent quelqu'un. Quelqu'un. Numéro 5. Vous pouvez aussi induire ou produire de bénédictions en ayant compassion sur ceux qui n'ont pas d'aide. Matthieu 25, 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez les bénis de mon Père, hérité du royaume qui vous est préparé dès la fondation du monde. Vous pouvez aussi induire la bénédiction en ayant l'amour pour les pauvres. C'est pourquoi l'évangélisation, l'implantation d'église parmi les pauvres amène des bénédictions. Psaume 41, verset 1. Pensez aux pauvres, considérez les pauvres seuls amène une bénédiction. Parce que c'est facile de ne pas se rappeler des pauvres, de tout ce que nous faisons. C'est facile à oublier les pauvres. Si tu arrives aux États-Unis ici, tu peux oublier les pauvres parce qu'il y a trop de choses, il y a trop de problèmes ici. Tu vas te rappeler de qui? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est étonnant. Vous pouvez aussi induire des bénédictions en honorant les pères, les mères. Vous pouvez induire des bénédictions en honorant l'homme de Dieu. Vous pouvez aussi induire une bénédiction dans votre vie en étant humble. Tu peux induire une malédiction en étant humble. Matthieu 5, 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Bienheureux les débonnaires. Matthieu 5, 5. La Bible dit que si tu es humble, il y a une bénédiction qui te vient, qui te revient. Beaucoup de personnes, quand ils sont jeunes, ils choisissent une belle femme, ils choisissent une épouse, il choisit une belle femme. Mais quand tu vieillis un peu et tu veux choisir une femme, tu vas choisir une femme humble. Ah oui, tu vas choisir une femme humble. Pas quelqu'un qui est têtu, quelqu'un qui fait un débat sur tout. Tu ne peux pas avoir des discussions tout le temps. Hey. Est-ce que vous êtes toujours là? Quand je prêche et puis ça vous concerne, il faut dire amen. C'est comme si vous êtes mystifié, vous ne comprenez pas mon message. C'est comme si vous êtes confondu, vous ne comprenez pas, vous êtes confus. J'ai dit, si vous êtes jeune, vous cherchez la plus belle fille. Mais quand on est vieux, quand on vieillit, on croit un peu, on cherche une fille humble. Vous êtes déclaré humble au nom de Jésus-Christ. Tout le monde part à la maison à l'humilité. Quand vous partez à la maison, dites, tu es humble. Une fois, j'ai prêché 3 clés pour avoir un bien-aimé. Première étape, humilité. Être humble. Deuxièmement, être humble. Troisièmement, être humble. L'humilité. C'est une bonne politique. Heureux les débonnaires, bienheureux les débonnaires. Si tu es humble, avec tes erreurs, tu seras aimé, tu seras choisi. Les grands, grands péchés ne seront pas considérés. Des grands problèmes ne seront pas considérés. Apprendre de dire, je m'excuse, je suis désolé. Je me souviens d'une sœur, j'officiais son mariage, et j'ai dit, est-ce que tu prends cet homme? Et puis, elle s'est courtoisie, elle a fait, oui, je le prends. Oh, j'ai dit, hey, je n'ai jamais vu une épouse si humble comme cela. Et elle est si humble, vous savez, elle est si humble. Et quand le frère voulait se marier à elle, elle avait plusieurs raisons pour lesquelles il ne voulait pas se marier à elle. Mais je lui ai dit, elle est une bonne fille. Il faut la marier. Et aujourd'hui, elle est humble. C'est joli d'être avec elle. Les gens qui sont humbles, c'est joli d'être avec eux. Si tu es orgueilleux, même une petite chose, quelqu'un doit utiliser un marteau pour te prouver. Et fais des points. Fais une réunion. Hey! Dis à ton voisin, il semble que le pasteur sait que tu es ici aujourd'hui. Heureux les débonnaires. Suivant, c'est la bénédiction d'être miséricordieux. Suivant, c'est bienheureux les miséricordieux. Tu es béni quand tu es miséricordieux. Quand tu es miséricordieux, tu auras beaucoup d'enfants, des enfants spirituels. Quelqu'un me demande, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir tous ces enfants-là? Tu as eu toutes ces personnes. C'est la miséricorde. C'est la miséricorde qui te donne beaucoup d'enfants. Sans de miséricorde, tu vas tuer tous tes enfants. Hey, toi, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il faut l'enterrer. Et toi, pourquoi tu as fait ça? Hey, tu coupes la tête. Tu vas tuer tout le monde dans ta vie. Donc, un père de miséricorde a beaucoup d'enfants. Et quand tu entres dans l'arrière-plan de tout le monde, tu vas comprendre. Ceci a fait ça, ceci a fait ça. Hein? Tu vas dire, hein? Celui aussi a fait ceci. Tu dis, waouh, waouh. Mais ils sont tous tes enfants. Eux tous sont tes enfants. Bienheureux les miséricordieux. Toi-même, tu es en train de semer des semences pour ton propre pardon. Oui. Une fois que quelqu'un était venu nouvellement et on était en train de tirer sur la personne et la personne n'était pas habituée. Et j'ai dit, écoutez, il n'y a pas de personne ici dans ce bureau qui n'a jamais pleuré dans ce bureau-là. Mais tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. La miséricorde nous apporte beaucoup d'enfants. Peu importe un arbitre. C'est comme un arbitre qui n'a pas vu la faute. Il dit, il faut continuer de jouer. Je n'ai pas vu. Quand tu avais touché le ballon avec ta main, il faut continuer. Si on avait coupé tes mains à cause de tes péchés, si on coupait un mètre par chaque péché, ta main sera où actuellement? Même jusqu'à ton épaule. Chaque fois que tu prends ton portable pour regarder la pornographie, à ce point-là, on avait déjà coupé même ton épaule. Ça va. On en a même coupé ton cœur. Wow. Heureux les miséricordieux. Bienheureux les miséricordieux. Si tu es miséricordieux, tu pardonnes, oui. Un jour, une certaine sœur, elle avait une bien-aimée, un bien-aimé A1 de haute classe. Mais un jour, elle a vu son bien-aimé parler à quelqu'un dans un coin ténébreux, un coin sombre. Et puis, elle ne pouvait pas supporter. Donc, on l'avait conseillé. Prends ton temps. Mais elle n'a pas pris son temps. Et à la fin, elle a perdu ce frère, ce bon frère. Le frère, il est un vrai frère. Les différentes catégories des frères A1, B5, X10, mais lui, il était un frère de classe A1. Tu ne vas plus perdre tout ce que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus-Christ. Heureux ceux qui procurent la paix. Au lieu de procureurs de la paix, il y a des procureurs des querelles. Bienheureux ceux qui sont purs de cœur. Tu peux induire une bénédiction à être pur dans ton cœur. Il ne faut pas essayer d'être pur à l'extérieur. Les bénédictions viennent quand tu es pur du dehors. Tu ne peux pas connaître quelqu'un jusqu'à ce que tu connais la pureté du cœur de la personne. Parce que ce n'est pas le dehors qui définit la pureté, mais le dedans. Nos chairs sont tous méchants et mauvais. Qui peut voir que ta chair est différente de toi-même? Tout le monde répète après moi, dit mauvais. Je veux que les pasteurs me répondent. Pasteur, des fois, est-ce que vous sentez que vos chairs sont très mauvais? Si, les pasteurs, levez vos mains. Si, même avec l'onction, vous sentez que quoi? Votre chair est mauvaise. Mauvais. Donc, ceux qui sont purs dans le cœur, combien de fois nous avons été jugés par l'extérieur? Et on dit, Regarde ce que tu as fait, mais ce que tu as fait, ce n'est pas ce que ton cœur est en train de faire. Donc tu ne connaîtras personne sauf que tu connais le cœur de la personne. Donc Dieu a aimé David, il a tué ses pasteurs associés, il a pris la femme de quelqu'un, mais son cœur, il aimait Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il aimait Dieu. Et c'est ça ce que Dieu cherche. Dieu regarde le cœur, le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu, toujours, il a regardé mon cœur, pas mes erreurs, pas mes fautes, il n'a pas regardé même mes mauvaises pensées. Des fois, quand les mauvaises pensées viennent, je dis, non, ce n'est pas possible que tu penses de ça. Est-ce que vous avez aussi eu des choses comme ça? Tu vas dire, ce n'est pas possible. Je ne crois pas. Tu peux avoir une bénédiction en croyant des choses sans voir. Jean 20, 29, la Bible dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, bienheureux ceux qui n'ont point vu et qui ont cru. Asseyez-vous maintenant.